Et puis c'est la fin. Et la fin n'est pas dérisoire. D'ailleurs, vous savez peut-être que les Romains avaient un dicton très intéressant qui fait sourire quand je le prononce, non pas en latin, mais en français. C'est dans la queue que se trouve le venin. Eh bien, c'est dans la fin que l'on trouve un certain nombre de choses qui sont assez corsées, notamment sur la manière d'approuver ce texte et sur la manière de le changer. Voilà. Alors, première question. Traité ou constitution ? Rappelez-vous ce que je viens de vous raconter. La Convention n'a pas été élue. Ni vous ni moi n'avons élu les membres de la Convention. Or, j'y ai fait allusion déjà, mais quand j'ai participé à des opérations de paix de l'ONU, dans des pays où il n'y avait plus d'État, une fois que les casques bleus avaient pacifié le pays, qu'est-ce qu'on faisait, nous ? On organisait des élections. Pourquoi ? Pour une assemblée constituante. Parce que le message que la communauté internationale donne au monde, à tous les peuples du monde, c'est si vous voulez une constitution, alors vous devez élire une assemblée qui la rédigera et qui l'adoptera. Ça, c'est le modèle que la communauté internationale diffuse dans le monde entier. Mais les Européens ne se l'appliquent pas. Première chose. Deuxième chose, tout le monde sait, il ne faut pas avoir fait des études de droit, tout le monde sait qu'un texte qui est négocié et signé par des gouvernements, ben ça s'appelle un traité. Et puis, dans une constitution normalement constituée, il y a des choses qu'on doit trouver, il y a des choses qu'on ne doit pas trouver. Alors, je vais vous donner simplement un exemple dans les deux cas de choses qu'on devrait trouver et qu'on n'y trouve pas, et de choses qu'on ne devrait pas trouver et qu'on trouve. Je vais d'ailleurs commencer par la deuxième catégorie. Il y a des dispositions qui arrivent comme ça, très vite, d'une manière un peu surprenante. Voilà l'article 4, le titre n'est pas de moi, le titre figure dans le traité, ça s'appelle « Liberté fondamentale ». Et là, je dois vous avouer que quand j'ai lu ce texte, pour la première fois, j'ai été quelque peu décontenancé parce que moi, je croyais que les libertés fondamentales, c'était précisément celle dont je vous parlais tout à l'heure, la liberté de se réunir, de s'associer, de s'exprimer, de publier, etc., etc. Non, ici, c'est la liberté d'établissement et de circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. Vous me direz, mais oui, mais ça c'est la logique du traité de Rome, c'était déjà dans le traité de Rome, et vous avez raison, et donc c'est encore dans le traité de Nice, mais vous avez raison à moitié. Parce que dans le traité de Nice, c'est pas écrit comme ça. Il y a des limites, il y a des restrictions, il y a des conditions. La liberté de circulation des services ne se fait pas dans n'importe quel contexte, pas plus que celle des capitaux et des marchandises. Ici, on a affirmé brutalement le principe de la liberté d'établissement et de circulation. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs un petit peu dans la littérature européenne les quatre libertés fondamentales. Je pense que ça ne devait pas se trouver à l'article 4. Le début d'une constitution, c'est quand même là où on met les choses essentielles. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Mais enfin, voilà. Une autre chose qui ne devrait pas se trouver, c'est ce genre de texte. Le titre n'est pas de moi, le titre n'est pas dans le traité. C'est un titre qui vient de M. Yves Salès, qui est le président de la Fondation Copernic. Je l'ai repris à mon compte parce que je trouve qu'il dit bien ce que ça veut dire. On a dans un texte qu'on baptise Constitution des choses qui devraient se trouver dans une loi ou dans un règlement. Vous convenez, ici il s'agit de la situation économique des transporteurs. J'aurais pu vous en donner des dizaines d'exemples comme ça. Il y a deux temps quand on parle de droit. Il y a le temps long d'une constitution, parce qu'on ne change pas une constitution tous les 6 mois ni même tous les 6 ans, et il y a le temps court de la législature qui suit le rythme des élections et donc les impulsions données par les électeurs. Ceci appartient au temps de la législature où on doit prendre des dispositions en faveur d'un choix de politique de transport ou bien en faveur de circonstances, la hausse ou la baisse par exemple du prix des produits pétroliers. Ce genre de choses n'a rien à faire dans une constitution, mais on en trouve des dizaines. Des dizaines, donc, auxquelles on donne la force d'une constitution. Puis, il y a autre chose qui est très faible et dont je considère que la faiblesse est grave. C'est la définition du territoire. J'ai enseigné qu'une constitution doit définir avec précision le territoire sur lequel elle s'applique. Ici, vous avez une définition, comme on dit, ouverte, très large. ça peut être sympathique. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne nous dit pas où on va. Parce qu'avec ça, on peut aussi bien donner raison aux gens qui disent « nous voulons construire une Europe politique » qu'à des gens comme Berlusconi qui dit ben, « il faudrait faire entrer le Liban et Israël dans l'Union européenne » ou bien un secrétaire d'État aux affaires européennes d'un pays voisin qui dit « il faudrait faire entrer les pays du Maghreb » ou bien la commission, ou bien le Parlement européen qui, au mois de janvier dernier, disait « il faudrait commencer des discussions avec l'Ukraine pour la faire entrer dans l'Union » sans même parler de la question de la Turquie. Moi, je veux bien tout ça. Je ne suis pas, de par principe, opposé à l'entrée de tous ces pays-là. Mais alors, ce n'est plus l'Union européenne comme Europe politique qu'on construit. On fait une zone de libre-échange, ce qui est tout à fait différent. Mais si on fait une zone de libre-échange, on n'a pas besoin d'un Parlement européen. On n'a pas besoin d'une Commission européenne. On n'a pas besoin d'un Conseil des ministres européen. On a sans doute besoin d'un organe d'arbitrage, comme dans tous les accords de libre-échange, mais on n'a pas besoin du reste. Où va-t-on ? On ne nous le dit pas. On n'a pas voulu choisir. On n'a pas voulu choisir parce qu'on n'a pas pu choisir. Parce qu'il n'y avait pas d'accord. Mais moi, je pense que quand il n'y en a pas d'accord, on devrait avoir la modestie de ne pas aller de l'avant et attendre que les conditions soient réunies. Ici, on nous demande d'approuver ce texte sans nous dire où on va. Et enfin, dans les choses qui sont restrictives, j'ai envie de dire, il y a cette définition de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? Que seul sera citoyen européen celui qui est citoyen d'un des 25 pays. Ce qui veut dire que n'existe pas, juridiquement, les millions de femmes et d'hommes qui vivent en Europe depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, plus peut-être, et qui n'ont pas la nationalité d'un des 25 pays. Vous me direz, c'est dommage, mais c'est ainsi. J'exprime des regrets éthiques, moraux, pas seulement. Pas seulement. Vous vous rappelez, il y a un certain nombre d'années déjà, j'ai envie de dire, quand on avait une bonne Commission européenne, quand elle se battait pour le principe à travail égal, salaire égal. Parce qu'il faut reconnaître qu'il fut un temps où la Commission se battait pour des principes comme ceux-là, parfois contre les États. Il est loin ce temps-là, mais enfin bon. On a établi ce principe. Je sais, nous savons qu'il est, on est loin encore de l'appliquer. Mais il existe et on peut, et notamment les organisations syndicales, peuvent s'y référer pour dénoncer sa non-application. Eh bien, vous devez savoir que dans ce texte-ci, il est dit... Tout ressortissant de l'Union européenne a droit au principe à travail égal, salaire égal. Donc, si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union européenne, ce principe ne s'applique pas. C'est un message envoyé directement aux patrons qui savent que s'ils emploient une personne qui n'a pas la nationalité européenne, ils ne sont pas tenus légalement d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal. Le message est envoyé 5 sur 5. Voilà. Donc j'ai résumé ici brièvement ce que je viens de vous expliquer. Et donc tout ça m'amènerait à dire que c'est un traité. Mais il y a l'article 6. Et l'article 6 nous dit « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres. » Ça veut dire qu'on a établi une hiérarchie et qu'on a mis tout au-dessus la Constitution et le droit européen. Alors vous me direz « Oui, mais ce n'est pas nouveau. » Et vous, encore une fois, je vous répondrai, vous avez raison, mais à moitié. Parce que ça n'a jamais été écrit dans un traité. Vous pouvez lire le traité de Nice et les traités antérieurs, vous ne le trouverez pas. Qui a décidé cela ? La Cour de justice des communautés européennes. Quand il y a eu des litiges, et qu'elle a été saisie de ces litiges, elle a toujours tranché en faveur de la primauté du droit européen. Dans des cas, dans des arrêts qui sont aujourd'hui célèbres, puisqu'on les étudie en fac de droit. C'est le gouvernement des juges, ce n'est pas un gouvernement issu du peuple qui a décidé de cela. Donc on pourrait dire que c'est un progrès. Et je serais enclin personnellement, puisque je suis pour une Europe politique, à dire que c'est un progrès. Mais pas comme ça, pas rédigé comme ça. Et certainement pas, vous le comprendrez à la fin de mon exposé, avec un texte comme celui-ci qu'on appelle Constitution. Je dis pas rédigé comme ça, parce que non seulement c'est la Constitution, mais le droit adopté. Vous savez comme moi que certains membres de la Commission européenne ont des pouvoirs extraordinaires. Est-ce que vous savez que le commissaire à la concurrence est à lui tout seul pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire ? dès maintenant. Mais avec ce texte-là, il peut prendre des décisions qui ne passeront pas devant le Conseil des ministres, qui ne passeront pas devant le Parlement européen et qui auront quand même primauté. Là, je trouve qu'on pousse le bouchon un peu loin. Voilà, mais en conclusion, moi, je vous dirais que c'est un traité auquel on a donné la force juridique et la force symbolique d'une constitution.